Lire dans le noir.
L'évangile de Jimmy, par Didier Van Kovelaert.
Disque numéro 9, chapitre 22.
Je voyage seul au premier rang. Les autres se sont installés à l'arrière de la classe à faire, retranchés dans le sommeil, la lecture, le jeu ou les films qui passent sur l'écran de leur fauteuil. Je n'existe plus pour eux. Je ne suis plus l'objet de leur mission. Kim est venu s'asseoir à côté de moi, au-dessus de l'Angleterre, une dizaine de minutes. Le temps de m'expliquer les conséquences du fiasco romain. Elle se voulait rassurante. Elle disait que la Maison Blanche ne me laisserait pas tomber, puisque mon option était levée. Dépendant de fonds gouvernementaux, j'appartenais aux contribuables, même s'ils ne devaient jamais connaître mon existence. J'ai appris ainsi les conditions de mon achat, moi qui croyais offrir mes services à titre bénévole. J'ai appris comment le juge Claiborne avait négocié ma licence d'exploitation, quel pourcentage devait être reversé sur mes déclarations publiques, mes guérisons, mes effigies, mes droits annexes. Je sais maintenant ce que je vaux, du moins ce que je coûte. Et je ne suis plus qu'une dépense inutile, puisque l'Église me rejette. Le président a renoncé à m'utiliser pour servir sa politique étrangère, et il me passe en pertes et profits. Dès notre arrivée à Washington, je serai pris en charge par le programme de protection des témoins. En échange de mon silence, on me fera de nouveaux papiers, une nouvelle tête, une nouvelle vie. J'ai dit à Kim que je voulais me retirer dans un monastère. Elle m'a regardé du coin de l'œil. Elle a répondu que ça ne poserait pas de problème. Avec un soupir, elle a ajouté que tout de même, c'était du gâchis. Je ne sais pas si elle parlait du projet Oméga ou du souvenir qu'elle avait de mon corps. Ça n'a plus d'importance. Aux yeux de mon personnel d'accompagnement, tout est fini pour moi, alors que tout commence. Elle retourne s'asseoir à côté de l'attaché de presse qui, mortifié par l'échec de ses courbettes au Vatican, s'est gavé de tranquillisants au décollage et roupille sous son masque. Humilié jusqu'à la moelle, Monseigneur Givens s'est plongé dans une exégèse de saint Paul et rumine ses griefs en restant à la même page. Le docteur Entridge, qui joue aux échecs contre son ordinateur, ne relève les yeux que pour lancer vers moi des regards de haine. Mon coach mental, épargné par les sanctions, zappe les programmes du bord en dégustant le caviar du plateau repas. Les gardes du corps voyagent en classe éco. Je fixe un point sur la moquette et je retourne à Lourdes, dans mon quart d'heure d'expiation. Le visage de Tiane rouvrant les yeux, sa main qui arrache les perfusions, ses premiers pas dans la chambre. Plus personne ne croit au miracle depuis que le Saint-Siège m'a déclaré irrecevable. Entridge, qui a soutenu mon témoignage tant qu'il servait ma cause, a balayé mes illusions en parlant d'une paraplégie psychosomatique annihilée par le coma. Quant à l'éclat d'obus du père Donoway, ce n'est plus pour eux qu'un argument de vente imaginé par un intermédiaire. Le seul phénomène paranormal qu'ils veulent bien laisser à mon actif, c'est le rétablissement d'un arbre exécuté ensuite à la tronçonneuse, prodige risible et sans lendemain. Pendant qu'on attendait à l'embarquement, l'attaché de presse, dans une dernière tentative pour sauver son plan média, a rappelé que le jardinier de Central Park lui avait juré sur l'honneur que l'érable mort s'était mis à faire des bourgeons. « Quoi, le jardinier ?» a craché Entridge. « Vous voulez qu'on le produise comme témoin devant la commission canonique ?» Vous voulez qu'on fasse appel du jugement qui nous déboute, qu'on retente le Vatican par la petite porte en instruisant un dossier de béatification pour guérison végétale ? La discussion s'est arrêtée là. Mon dossier est clos, mon affaire classée. Et je me retrouve à l'abandon avec le poids d'une mission que mes compagnons de voyage ignorent. Une mission confiée par la seule personne pour qui je suis encore un espoir et que je ne pourrai jamais accomplir sans leur aide. Je me réveille en sursaut. Je n'ai pas eu conscience de m'endormir. Je me retourne. Tous les fauteuils sont en position couchette. Je suis la dernière lumière allumée. J'éteins mon plafonnier, regarde la lune au coin de mon hublot, essaie de ressentir une présence dans la lueur blafarde étalée sur le désert de nuages. Un grincement à côté de moi. Le parfum de Kim. Je la contemple, démaquillée, ses cheveux dénoués, rajeunie et touchante de ridicule dans le pyjama de coton beige marqué American Airlines, uniforme unisexe des passagers d'affaires. Je lui demande pourquoi elle est revenue. Je connais la réponse, mais ça meuble, ça dilue la proximité de son corps en tenue de nuit. « Tu me racontes ?» demande-t-elle dans un murmure. Pendant l'audience prévue au Vatican, elle était restée à l'hôtel en tant que femme, à la demande de Mgr Givens qui ne voulait pas heurter les sensibilités. Quand elle nous a vus revenir du Castel dei Fiori, on n'a eu que le temps de boucler nos valises. La Maison Blanche avait déjà transmis l'ordre d'évacuation. Entre le bruit des réacteurs et les ronflements de l'attaché de presse, je lui raconte l'investiture du cardinal Fabiani, la nouvelle croix que je porte en cachette de tous. Je lui ouvre mon cœur comme si on était seul dans le ciel. Elle m'écoute avec attention, impatience et tristesse, tour à tour. Lorsque j'ai fini, elle attrape ma main. « Oublie ces conneries, Jimmy, et ferme-la, je t'en supplie, tu risques ta vie !» Et alors ? Elle se détourne en crispant son poing sur l'accoudoir. Son profil tendu, sa bouche en colère et la peur qui soulève sa poitrine me touchent. Je ne veux pas qu'elle s'inquiète. Je lui ai fait assez de mal en feignant l'indifférence. « Qu'est-ce que tu me conseilles, Kim ? J'ai envie de toi. » Je sursaute. Elle enchaîne comme si j'avais mal entendu. « Tu n'as pas besoin de mes conseils. Ta décision est prise. Tu vas retourner dans un couvent et t'enfermer jusqu'au moment où tu te croiras digne de jouer ton rôle de balise de secours. Mais personne ne t'écoutera. Tout le monde s'en branle que ton linceul pourrisse dans le gaz. Il y a d'autres priorités sur Terre. Et tu auras causé ta mort ou gâché ta vie pour une poignée de bactéries, mais toi, tu penses que c'est pour le bien de l'humanité. Alors, vas-y, je n'ai rien à dire. » Elle se presse contre moi, cherche ma bouche. Je n'ai pas le courage de me dérober. Elle murmure entre deux baisers. « Viens me faire l'amour, Jimmy. Pour de vrai, cette fois. Sans que je triche. Sans que je fasse semblant d'être nul. Je ne t'ai pas trouvé nul. Ne mens pas. Viens enterrer ta vie de garçon. Après, je te laisse à Dieu. Je veux être ta dernière fois. Je veux que tu me connaisses comme je suis. Viens me caresser. Viens me prendre. Viens dire adieu à mon corps de femme. Viens. » Elle détache ma ceinture de sécurité, désigne du menton les toilettes. Je lui dis, « Vas-y, je reste là, Kim, et on le fait à distance. » Elle me dévisage, morce à lèvres, acquiesce. Je la suis du regard. Lorsque le voyant rouge s'allume sur la cloison devant moi, je ferme les yeux, noue les mains devant ma bouche, me branche sur son corps comme j'essayais de capter l'accidenté de Harlem qui simulait la mort, l'aveugle de la synagogue, l'érable de Central Park, le berger allemand du FBI, Irwin Glasner et la petite Tuan. Et je fais l'amour à toute la création, à l'enfant qui se réveille, marche et meurt, à la migraine d'Irwin Glasner pour qu'elle disparaisse, à la femme de ma vie pour qu'elle soit heureuse avec un autre, au vieux haricot dans son fauteuil roulant qui m'envoie baliser le genre humain qui s'en fout. Je fais l'amour immobile dans le ciel, en pure perte, et je sais que derrière la porte, Kim vibre à mon rythme et va jouir en même temps. Je prie pour que l'échec de ma mission ne lui cause pas d'ennui, qu'elle m'oublie sans douleur. Et je recommande son âme en libérant dérisoire, une semence qui de toute manière ne produira jamais d'être vivant.